Seigneur, ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par cette vérité. J'ai hésité, je ne vous le cache pas, à prêcher sur ce texte de l'Épître aux Romains où vous l'avez entendu, le mot prédestination est posé. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup un dimanche de vacances, il n'y aura pas beaucoup de monde, de me coltiner ce texte de la prédestination? Et puis je me suis dit, c'est comme ça, il faut y aller, il n'y a pas de raison. Donc je l'ai un peu travaillé. Je propose cette prédication en deux temps. En premier temps, donc quelques mots sur cette prédestination. J'ai juste effleuré le sujet, j'ai un peu relu Jean Calvin. Et puis, dans un deuxième temps, tout de même un mot sur l'évangile du jour, qui est plus facile, il me semble, entendre. Mais c'est ça aussi la parole, c'est ça la parole. Je vous propose six points pour aborder ce thème de la prédestination. Voilà, six axiomes. Six propositions qui nous permettent de réentrer dans cette formulation théologique. Premier point, selon cette théologie de la prédestination, l'homme n'a absolument aucune prise sur son salut. En matière de salut, c'est Dieu seul qui est maître de toute chose. Premier point éminemment important, Dieu est Dieu, à Dieu seul la gloire, l'homme n'a aucune prise sur son salut. Deuxième point, aucun homme ne mérite d'être sauvé, aucun homme n'est juste devant Dieu, tous sont pécheurs. On entend là bien sûr la prédication de la Réforme, la prédication de Martin Luther, de Jean Calvin, tous sont pécheurs, tous sont appelés à subir le jugement de Dieu, mais il plaît à Dieu selon sa volonté. Il plaît à Dieu d'en sauver quelques-uns, ceux qui sont appelés d'avance, ceux qui sont prédestinés, destinés d'avance à être sauvés. Telle est la liberté de Dieu, telle est sa juste volonté d'en sauver quelques-uns parmi tous qui sont appelés sinon à la perdition. Troisième point, troisième axiome, la foi. Alors, la foi est un don de Dieu, elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas, il n'appartient pas à l'homme de la chercher. La foi est absolument un don de Dieu donné à ceux qu'il a destinés d'avance à être sauvés. La foi, véritablement, comme un don de Dieu. Quatrième point, en même temps que Dieu donne la foi, il renouvelle par son Esprit Saint ceux qu'il a élus. Et ça, c'est un point éminemment important, parce que souvent l'objection qui est faite à la prédestination, objection un tant soit peu humaine, c'est de dire, mais alors, si on est prédestiné à l'avance, si on est élu, on peut faire les pires crapuleries dans sa vie, on peut être le pire des hommes, la pire des femmes, et Dieu va tout de même nous élire profondément injuste à notre manière d'envisager les choses avec notre petite justice, notre petite morale humaine. Mais point éminemment important, en même temps que Dieu donne sa foi, il souffle en même temps son Saint-Esprit sur ceux qu'il a prédestinés d'avance. Ce qui explique que ceux qui sont élus n'ont pas une pire moralité que ceux qui ne le sont pas, et même on pourrait dire qu'ils ont plutôt une moralité, une sainteté un peu plus importante que ceux qui ne sont pas élus. Cinquième point, reproche que l'on fait également à cette théologie de la prédestination. Prédestination est un déterminisme absolu, il n'y a aucune place pour la liberté. Comment adorer un Dieu, comment accepter un Dieu qui ne laisserait aucune place pour toute liberté, pour toute responsabilité? Certes, en matière de salut, vous l'avez entendu, c'est très clair, on peut parler de déterminisme absolu. Certains sont élus, prédestinés de toute éternité, telle est la volonté de Dieu. Mais en matière d'éthique, il y a tout un espace de liberté et de responsabilité qui s'offre à tous, aux élus comme non-élus. Donc, il est finalement un peu un peu rude de dire que la prédestination serait un déterminisme absolu. En matière de salut, oui, mais en matière de choix de vie, en matière d'éthique, en matière de moralité, non. Même pour les élus, il appartient de construire sa vie, de trouver sa vie, de trouver son chemin afin de rendre gloire à Dieu, le maître de toutes choses. Enfin, sixième point, la prédestination peut être perçue comme source d'espérance malgré tout, je m'en explique. Face à la réalité du mal qui nous est extérieur, ce que la Bible appelle les forces diaboliques, hein, le mal existe au cœur de ce monde, mal sur lequel l'homme n'a pas de prise, la Bible s'en explique très bien, face à la réalité du mal qui nous est propre, qui nous est ontologique, l'apôtre Paul nous le dit avec cette image du vieil homme, en chacun d'entre nous il y a du vieil homme. Face à ce mal-là réel, le découragement et le cynisme sont possibles. À quoi bon continuer à vivre dans ce monde où règne le mal? Alors en plaçant notre salut entre les mains de Dieu, d'une certaine manière, nous sommes libérés du devoir de faire le bien. Oui, il y a le mal, mais ce n'est pas à nous de le combattre, c'est à Dieu de le combattre. Certes, pour une part avec nous et en nous, en soufflant en nous son Saint-Esprit, mais tout n'est pas entre nos mains, et puisque tout n'est pas entre nos mains, il me semble que cela, d'une certaine manière, est source de libération. Nous n'avons pas, par nos propres forces, à sauver le monde. Le monde est entre les mains de Dieu, c'est à lui de le sauver. Ça va un peu vite, voilà ces six points, mais je remettrai ces six points sur le site internet de la paroisse, vous pourrez vous y replonger. Quelques remarques maintenant, avant de passer à l'évangile. C'est bien beau tout ça, mais comment savoir si l'on est sauvé? C'est quand même l'enjeu. Comment savoir si on est élu, en d'autres termes? Eh bien, curieusement, je n'ai pas relu tout Calvin, évidemment, il faudra une vie entière, mais Calvin donne deux réponses différentes, vous voyez déjà. C'est-à-dire qu'on est dans la complexité tout de même, hein, on est dans la complexité. Première réponse de Jean Calvin, peu importe de savoir si l'on est élu ou pas, si on est prédestiné ou pas, nous devons vivre comme si nous l'étions. Nous n'en sommes pas sûrs, mais nous devons vivre comme si nous l'étions, parce que nous soyons sauvés ou pas, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de beauté, c'est un chemin qui nous élève, donc vivons. Vivons comme si nous étions sauvés. Deuxième réponse de Jean Calvin, dans son traité sur l'élection, voilà ce qu'il dit. Si nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur au plus profond de notre cœur, il ne s'agit pas juste de le confesser publiquement comme cela, hein, voilà, mais vraiment le confesser dans l'intimité de notre cœur, si nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur, alors nul doute que nous sommes sauvés, nul doute que nous sommes élus. Vous voyez quand même, nuance importante. Et puis je n'ai pas le temps de vous lire un autre extrait, mais il me semble que dans ce même traité, là on part encore sur une autre piste théologique, il semble que Jean Calvin ouvre un tant soit peu la porte, je ne dis pas qu'il ouvre largement la porte, mais un tant soit peu la porte, à une élection universelle. Mais c'est une autre question. Trois commentaires encore. Comment réagir face à cette proposition, cette théologie de l'élection qui est ancrée? Ce serait trop facile si elle n'était pas ancrée bibliquement, on dirait fadesque tout cela. Mais cette théologie, vous l'avez entendu, qui est ancrée bibliquement, ancré dans l'Ancien Testament avec l'élection du peuple hébreu, ancré dans cet épître aux Romains, ancré dans l'épître aux Galates qui reprend également ce mot de prédestination. Donc il s'agit quand même de quelque chose qui est ancré bibliquement. Bien c'est tentant, en tout cas là je parle pour moi, c'est quand même tentant de se dire que, voilà, contrairement à l'ensemble des religions qui disent qu'en fait on est dans la négociation du donnant-donnant, si je fais un peu le bien, eh bien je vais recevoir la grâce de Dieu, c'est tout de même tentant d'avoir une théologie qui pose la grâce absolue, qui dit « tout est entre les mains de Dieu ». C'est assez tentant, c'est assez bouleversant, c'est assez innovant, et ça mérite qu'on s'y attarde, il me semble, en tout cas dans un dialogue avec d'autres religions et d'autres théologies. D'un autre côté, si on ne fait pas partie des élus, c'est tout à fait révoltant de se dire, ben de quel aura je ne suis pas élu, de quel roi je ne fais pas partie de cette classe, de cette race des prédestinés, à moins d'aimer suffisamment Dieu pour dire, si Dieu est Dieu, c'est son choix, c'est sa liberté, alors je m'incline devant son choix, devant cette liberté. Mais pour avoir un tel amour de Dieu, ne faut-il pas être élu? Donc on se trouve devant une impasse. Troisième remarque, et celle-là est redoutable. L'adaptation sociologique la plus précise de cette prédestination a conduit au régime d'apartheid en Afrique du Sud, régime calviniste, ce qui est assez effrayant. Donc, à manier avec beaucoup de recul. Enfin, dernier point qui me semble plus intéressant, en tout cas plus joyeux, moins effrayant. Si Dieu élu de toute éternité ce qui lui plaît, hein, quelle est la place de la repentance là-dedans, quand même? Repentance au cœur de la prédication de Jésus-Christ, au cœur de la prédication du baptiste, vous vous souvenez, le baptiste qui se lève dans le désert pour dire « repentez-vous ». Alors, quelle est la place de la repentance? Eh bien, il me semble que dans cette théologie de la prédestination, la place de la repentance, c'est replacer celui qui est élu sur le chemin de la sainteté, lui rappeler, comme l'a dit Martin Luther dans cette formule saisissante, « simul justus, simul peccator », à la fois juste et pécheur, même celui qui est élu, continue à avoir du non-créé en lui, la loi est là pour lui rappeler, afin qu'il se replace sur un chemin de vie, sur un chemin de sainteté. Voilà quelques mots sur cette théologie de la prédestination. Passons à l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Ce que j'entends aujourd'hui dans l'Évangile, c'est qu'il est caché. Il ne vous a pas échappé qu'on parlait beaucoup de transparence en ce moment, je n'en dirai pas plus. Mais voici que ce matin, il nous est dit que tout peut-être n'est pas bon à être dévoilé tout de suite. J'entends ça avec cette parabole où il nous est dit que l'Évangile est caché dans un champ, que l'Évangile est semblable à un trésor enfoui au plus profond d'un champ. J'entends cela dans cette parole du Christ à ses disciples au cours de son ministère, quand certains commencent à avoir l'intuition qu'il est peut-être le Messie, le Christ attendu. Jésus leur dit, pas tout de suite, le temps n'est pas venu. J'entends cela dans cette parole du Christ qui dit, il est bon que je parle en parabole afin que tous ne comprennent pas tout de suite, afin que l'Évangile, que la profondeur de l'Évangile, que la force de l'Évangile ne soit peut-être pas compris trop rapidement, parce que sa compréhension mérite certainement du temps, beaucoup de temps. Alors j'entends cela ce matin que, oui, l'Évangile est caché, qu'il est bon quelquefois que dans notre vie tout ne soit pas révélé tout de suite, qu'il est bon qu'il y ait des jardins secrets, et que l'Évangile est à découvrir doucement, comme cet homme qui va dans son champ et avec une pelle, doucement, remue la terre afin de faire sortir ce trésor caché. J'entends aussi ce matin que cet évangile est d'un grand prix. La femme au parfum l'a bien compris, celle qui sacrifie plus de 2 ans de salaire pour parfumer les pieds de Jésus, pour parfumer sa tête, suivant les évangiles, disant que le Christ a un grand prix à ses yeux. L'évangile est d'un grand prix, semblable à un trésor, semblable à une perle précieuse. À quoi ça sert une perle précieuse? Il me semble que cela sert à donner de la beauté à la vie. Et le marchand dans la parabole est prêt à tout vendre pour cette pierre précieuse, et donc à sacrifier beaucoup de choses. Quand on vend tout, on se retrouve avec magnifique pierre précieuse, mais on a sans doute un peu moins de liberté. L'argent donne la liberté, la disponibilité, la facilité de vivre, la facilité des choix. Quand on liquide tout cela pour acheter une perle de grand prix, eh bien, la vie est sans doute peut-être un peu moins facile. Mais la beauté est entrée alors dans nos vies. Une perle précieuse sert à donner de la beauté à soi-même. On est fier de porter une pierre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une pierre précieuse, ça sert à donner de la beauté aux autres. On la porte, une pierre précieuse, pour soi, mais aussi pour les autres. Et ceux qui la regardent peuvent se réjouir de sa beauté. Cette pierre précieuse illumine d'une certaine manière leur espace et leur vie. Tel est, il me semble aussi, l'évangile que nous sommes appelés à faire nôtre, à porter. Il a cette force, je le crois, cette capacité à donner de la beauté si on le porte en nous, à donner de la beauté à ceux qui nous entourent. Cet homme de la parabole décide de tout vendre pour acheter un champ parce qu'il sait qu'un trésor y est caché. Cette année-là, en ce temps-là, Jérémie aussi décide d'acheter un champ. Le temps n'est pas favorable, le mal est là présent par cette armée babylonienne qui est prête à envahir Jérusalem. Les petites négociations géostratégiques ont échoué. Jérusalem, pour un temps, a essayé de s'allier avec les alliés d'un jour ou d'un soir, mais cela n'a pas marché. La sentence de l'Éternel est tombée parce que ce peuple a été infidèle, parce que ce peuple n'a pas écouté ma loi, ce peuple élu. Eh bien, mon châtiment va venir, Nabucodonosor va envahir ce pays, et nous connaissons la suite, il va détruire le temple de Jérusalem, emporter une partie du peuple vers Babylone. Et on pourrait croire alors qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'espérance. À quoi bon vivre alors? Voici que Jérémie pose ce geste d'acheter un champ. Par ce geste concret d'acheter un champ, il veut signifier que l'espérance est possible. Oui, le mal existe. Oui, quelquefois, les forces du mal se déchaînent sur des pays, dans des pays. Mais l'espérance qui nous vient de Dieu, l'espérance que tout n'est pas entre nos mains, mais que l'avenir de ce monde est entre les mains, persiste. Alors Jérémie achète un champ en disant « Il sera possible de semer, il sera possible de récolter, il sera possible de construire sur ce champ des maisons, il sera peut-être possible de découvrir dans ce champ des trésors cachés. » Il y a quelques dizaines d'années, je ne me souviens pas la date, le conseil presbytéral de cette paroisse a décidé d'acheter un champ. C'était à Montbonneau, c'était très loin de Grenoble. Il n'y avait rien. À quoi bon acheter ce champ? C'est de l'argent perdu, sans doute. Il y a d'autres priorités. Parce qu'avec ce champ, on ne peut pas nourrir des pauvres. Et puis, le conseil presbytéral, sans doute, je l'espère, même j'en suis sûr, a prié et elle s'est dit on va l'acheter ce champ et puis advienne que pourra. Et des années plus tard, vous savez ce qu'est devenu ce champ, est devenu cet espace de Montbonneau, un magnifique endroit plein de beauté où les jeunes se réunissent, où l'on fait des réunions de paroisse avec un potentiel énorme où il est possible d'imaginer plein de choses. C'est peut-être cela qu'a réussi le plus ce conseil presbytéral en posant ce geste d'acheter ce champ, c'est d'ouvrir les possibles, de donner la chance aux générations futures de créer, de bâtir avec leur intelligence, avec le souffle de l'esprit, d'ouvrir des possibles. Eh bien, chers amis, chers frères, nous faisons partie de cette génération qui a aussi la chance d'ouvrir des possibles en rénovant ce temple. Nous avons cette possibilité-là aujourd'hui, c'est la réflexion du conseil presbytéral, de penser à notre temple, de penser notre immobilier de manière nouvelle. Nous avons cette volonté, le conseil presbytéral a cette volonté. Nous en avons même pour une part les moyens, une partie des moyens, en tout cas, nous ne partons pas de nulle part. Il se trouve que voilà, des biens nous ont été légués, que la vente du presbytère de Fontaine va se révéler plus bénéfique que nous le pensions au départ. Il se trouve que voilà, des paramètres sont possibles pour que nous rêvions des possibles ensemble, que nous créions, que nous bâtissions, non pas pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Alors j'espère que, voilà, que vous allez nous suivre, que vous allez suivre le conseil presbytéral, dans cette folie, dans cette espérance, dans cet acte peut-être un peu prophétique, je l'espère, comme ce jour-là. Jérémie, passant sans doute pour un fou pour la plupart des gens qui l'accompagnaient, décide d'acheter un champ. Amen.